Je voulais juste encourager parce que on a eu vraiment, on parlait de miracles ce matin. Et en fait, donc, avec mon mari qui est là, c'est Philippe, on s'est marié il y a un an et demi. Et en fait, on avait un gros problème pour trouver un logement qui corresponde à notre besoin. Parce que moi, j'avais un 3 pièces, il avait un 3 pièces et il nous fallait un 4 pièces. Ayant chacun 2 enfants encore à charge, filles et garçons. Et 1 enfant à charge chacun. Et en fait, le problème, c'est qu'on habite sur Monaco. Alors, ce n'est pas un problème en soi. Mais le problème sur Monaco, c'est vraiment le logement. Et il fallait vraiment un miracle. On a attendu pendant plus d'un an. Et puis, il n'y avait toujours rien. On s'est inscrite sur une liste d'échange d'appartements entre locataires qui veulent échanger pour un plus petit ou un plus grand. Et en fait, on a prié vraiment ensemble tous les deux. On a mis notre foi en action. On a essayé, comme on voyait que ça n'arrivait pas, on a essayé de faire des compromis en se disant, ben, on va rester dans mon appartement, on va faire des travaux. Et puis, ça aurait été vraiment étroit, mais on s'est dit, bon, ben, vu que l'appartement ne vient pas, on va faire un compromis. Et même le compromis n'a pas marché, parce qu'on a essayé de faire les travaux, on a fait venir un architecte, on a fait faire plein de devis, et en travaillant, c'était juste épuisant. Et même ça, on n'a pas réussi à l'enclencher. Et vraiment, on s'est joint dans notre foi. On a joint notre foi ensemble tous les deux. Et on a dit, au début, on a cru, quand on a commencé à prier, on a cru qu'on allait avoir un nouvel appartement. Et on a dit, on va retourner au plan initial. Et en fait, on n'a pas lâché l'affaire. Et un jour, je consultais la liste et il y a une annonce qui est apparue pour un 4 pièces. Et la personne précisait qu'elle, elle ne voulait absolument pas. Vous avez plusieurs quartiers dans Monaco et un qui est au bord de mer qui s'appelle Fontvieille. Et la personne disait qu'elle, elle ne voulait changer un appartement uniquement sur Fontvieille. Et le uniquement dans l'annonce, il était écrit en capitale. Et moi, je n'habitais pas du tout Fontvieille. J'habitais à l'opposé, en plein centre-ville. Et vraiment, j'ai été poussée dans mon cœur. Et sur le coup, la pensée dit, bon, bah, ça, c'est pas pour moi. Et dans mon cœur, j'ai répondu de suite à l'annonce, alors que j'aurais vraiment pas dû le faire. C'était tellement explicite. Et la personne m'a dit non, 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 nous on veut que sur Fontvieille. Je dis bon, c'est pas grave. La personne est revenue vers moi en me disant bon, est-ce que vous pouvez quand même m'envoyer des photos de votre appartement ? Et finalement, un pas après l'autre, elle a eu le coup de. Elle m'a dit je suis rentrée chez vous. Elle est venue le visiter. Elle a dit quand je suis rentrée. Et à mon sens, elle n'est pas chrétienne, mais elle m'a dit, quand je suis rentrée chez vous, elle m'a dit, j'ai eu le coup de cœur. Elle dit, je savais que c'était celui-là. Et elle en avait visité plein d'autres. Et nous, on en avait visité plein d'autres. Et quand on est arrivé dans l'appartement de cette dame, j'ai dit à mon mari, avant d'arriver, j'ai dit à mon mari, écoute, si c'est celui-là, on va le savoir de suite. Et si c'est celui-là, on lui dit oui de suite, on ne réfléchit pas. Il m'a dit, OK, on est rentré. Et quand on a fini de faire le tour, on lui a dit, pour nous, c'est bon. Et il fallait convaincre son mari, parce qu'elle, dans son cœur, à elle, c'était clair, mais son mari, lui, était à l'opposé. Et on a prié pour son mari, et vraiment, le Seigneur a changé son cœur. Et on a eu ce 4 pièces. Et c'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment un miracle, parce que cet appartement, à la base, dans le naturel, il n'était pas du tout destiné pour nous. Quoi. C'était, et tout correspond, le calme. Mon mari avait un appartement très calme, alors lui, il fallait vraiment pour lui du calme pour la nuit. Et Monaco au calme, ça n'existe pas quasiment. Et donc, tout correspond. Et moi, j'avais toujours rêvé, vous savez, le petit détail des femmes pour les appartements, j'avais toujours rêvé d'une fenêtre au-dessus de l'évier de la cuisine. Et j'ai ma fenêtre au-dessus de l'évier de la cuisine. Et plein de petits détails comme ça qui sont vraiment super. Donc, il y a beaucoup de travail à l'intérieur, mais il est beau et vous viendrez le voir. Voilà. Merci. Je rends grâce à Dieu.
Super. Merci. Vous savez, les gens, quelquefois, ils ne comprennent pas pourquoi avoir Dieu dans sa vie. Bah, déjà, avoir Dieu dans sa vie, c'est garantir. Une fois qu'on a quitté cette terre, on va tous quitter cette terre. Hein, un jour ou l'autre, on va tous partir de cette terre. La Bible dit, nous sommes des pèlerins de passage. Hein. Et nous allons tous vivre ailleurs. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Ils pensent que dans les cimetières, les gens disent « Ah, bah tiens, j'ai enterré mon oncle, j'ai enterré ma tante. » Non, on n'enterre personne. On met en terre des vieux vêtements, des corps. Hein. Mais les personnes elles-mêmes, le corps n'est qu'un vêtement. Et la personne elle-même, elle part. Parce que nous sommes un être spirituel. Et donc, l'idée est où ? Et c'est à nous de choisir. C'est pour ça que l'évangile est prêché jusqu'à aujourd'hui, pour que les gens sachent qu'ils vont vivre ailleurs et qu'ils doivent choisir. Et choisir comment ? Ben, c'est très simple. Avec Dieu ou sans Dieu, parce qu'il n'y a pas 36, c'est ou avec ou sans. Et c'est pour ça que Jésus a dit, ben, moi je suis le chemin qui mène à Dieu. Le chemin, la vérité et la vie. Alors, tous ceux qui le souhaitent, nous pouvons vous faire parvenir un lien qui explique justement l'importance de Jésus dans une autre vie. Donc, dans l'importance de Jésus. Qu'est-ce qui se passe quand nous acceptons Jésus dans notre vie? Pour après, et puis, franchement, avoir Dieu dans sa vie, c'est pas juste avoir l'image de Johnny Hallyday au-dessus de son piano. C'est Dieu. Donc Dieu qui vient dans la vie de quelqu'un, ça devrait apporter un chamboulement. Et quand quelqu'un apprend à s'appuyer sur lui, eh bien, Dieu aime ça. Parce qu'il a envie de faire ce que nous, on ne peut pas faire. Et là, Pascal explique qu'ils étaient dans une situation impossible. Parce qu'il, et Dieu a fait un miracle. On dit, oui, mais quand même, oui, bien sûr, c'est à travers les gens. Mais il fallait qu'au même moment, les appartements soient prêts, que les appartements correspondent, que les montants soient OK. Il fallait des tas de circonstances. Vous lui dites, bah, c'est le hasard. Le hasard n'existe pas. Et n'importe qui peut le vérifier. Prenez, par exemple, 3 alphabets. Hein, découper chaque lettre, mélanger toutes les lettres de ces 3 alphabets ou 4 ou 5, peu importe, et jeter toutes ces lettres par terre. Si le hasard existe, vous devez avoir, par exemple, un beau texte de Rousseau, de Voltaire ou de, je ne sais pas quel est votre auteur préféré, écrit par terre, si le hasard existe. Et jusqu'à présent, il n'y a pas une personne qui m'a dit « c'est possible ». Tout le monde dit oh, « c'est impossible ». Voilà, on le sait. Donc, il faut qu'il y ait une autre influence ou d'autres influences derrière les circonstances. Et ma question est, laquelle invites-tu dans ta vie? Donc, voilà, on se réjouit pour vous et je suis sûre que c'est une nouvelle étape pour vous. C'est super. Très bien, très bien. Tu veux rapidement donner ton témoignage? Et ensuite, est-ce que vous êtes prêts pour... une autre forme de la parole de Dieu, c'est-à-dire sous la forme d'un message. Parce que c'est la parole de Dieu que l'on entend. Hein. Intervention, Lisa.
La parole. Est-ce que vous êtes décidé à mettre la parole en action? Alors, moi, j'ai mis la parole de Romains 8, 28, dans ces circonstances qui n'étaient pas très favorables. Vous savez qu'il y a un mot qui me caractérise, c'est le mot « concret ». Moi, j'aime ce qui est concret avec la démonstration concrète de ce que le Seigneur peut faire dans la vie. Voilà. Ça concerne l'immobilier aussi. Voilà. Voilà. Donc, c'est, ben oui, le travail. Voilà. Et, mais c'est pour aider, c'est pour encourager parce que nous devons encourager avec nos victoires. Il y avait cet appartement, donc, que nous avions mis à la vente. Et puis, cet appartement était... on va dire avec ancien, avec des travaux à faire. Nous avons mis une annonce et des personnes se sont présentées, très intéressées financièrement aussi. C'est-à-dire, on nous a demandé de négocier cet appartement avec un seuil bas, très bas par rapport à ce que nous souhaitions. Bon, nous avons voulu... pas nous débarrasser, nous avons voulu concrétiser, nous avons accepté cette offre qui était en dessous de ce que nous avions demandé. Tout était OK. Les visites, les devis, les entrepreneurs, etc. Et puis, alors que nous allions signer un compromis, ce tech-cabreur a dit « Non, finalement, je me désiste. » Vous pensez d'une déception. Déception pour la famille. Et moi, j'ai dit « Mais nous avons une parole. » La parole de Romains 8, 28 dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. » Toute chose. Voilà. Donc, nous étions prêts à brader cet appartement et le Seigneur dit « Non, Il y a mieux. Oui, il y a eu mieux. Et vous savez, encore une fois, il y a eu des personnes qui se sont présentées, des personnes qui ont tout fait pour avoir cet appartement avec une offre supérieure. Et puis, problème de crédit, ça ne s'est pas fait non plus. Seigneur, tu as dit que toute chose concourt au bien, on n'a pas lâché l'affaire. Et tout de suite après, parmi les personnes qui s'étaient présentées pour visiter, il y a un jeune couple qui est venu et qui a dit « Pour nous, c'est OK, cet appartement nous convient au prix que nous avions souhaité. » D'accord ? Et quand nous avons fait les visites avec ce jeune couple, je leur ai dit « Voilà, nous sommes chrétiens. Alors, sur la base de ceci, il faut que vous soyez bénis dans cette transaction. Et moi, je déclare dans mes prières que nous sommes tous bénis. Le vendeur, l'acquéreur et l'intermédiaire, s'il y en a un. » Ils étaient extrêmement touchés par ce témoignage, parce que ce n'est pas un langage habituel. Hein, voilà. Écoutez, ça y est, cet appartement a été vendu pour le bénéfice de chacun de nous. Voilà. Il faut tenir bon avec la parole. Voilà.
Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, voilà, ça c'est l'évangile pratique. Et c'est tout à fait normal. Tout à fait normal. Hein. Quand on dit que Dieu fait de bonnes choses, ben, il faut savoir que c'est des bonnes choses déjà sur terre. Alors, c'est vrai que un culte, eh bien, nous venons devant le Seigneur. Et le Seigneur est partout. Il est partout sur cette terre. Il est à la montagne, il est à la plage, il est en prison, il est à l'hôpital, il est dans les écoles, il est partout. Mais vous m'entendez souvent dire, et puis je pense qu'il y a quelque chose du texte biblique qui va vous aider à en prendre conscience tout à l'heure, c'est que Dieu ne se manifeste que là où il est invité. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une personne assise sur un siège qui dit « Ah, Dieu, ah, Seigneur, tu es bon. » Et la présence de Dieu est là. Après, la personne est consciente. Et vous avez l'autre à côté qui dit « Mais franchement, qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, de Dieu ? Je n'ai pas besoin. » Et on est libre de penser, on est libre de penser. Et l'autre, dans la même pièce, ne recevra rien. Et moi, je trouve ça normal. Et j'aime cela, pour vous dire la vérité. Parce que Dieu n'est pas un gourou, il n'est pas quelqu'un qui s'impose. Dieu a un cœur de père. Et il lit les cœurs. Et il répond à la soif que l'on a. Et une chose que j'ai apprise, entre autres, c'est que Dieu a un mot à dire sur tout. Tout ce qui concerne la vie, Dieu a un avis à nous donner. Et j'aimerais aujourd'hui vous entretenir sur un sujet d'actualité. Et il est entendu que quand on touche à des sujets d'actualité, eh bien, peut-être que l'on risque sans le vouloir de blesser quelqu'un. Non pas intentionnellement, mais c'est parce que, bien, il y a un avis qui est donné, qui est un avis biblique qui n'est pas le mien. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que je pense des sujets de la vie. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Donc, ce que Dieu dit doit être vérifiable par tous. D'où la raison d'avoir sa propre Bible. Quelle que soit la version que vous utilisiez. Hein. Mais c'est important. Et il y a des sujets d'actualité. On se dit, ce qui compte, c'est juste l'avis de la science. Et on va voir aujourd'hui comment considérer la connaissance. Et je peux dire que là, j'ai votre attention, c'est absolument... Relaxez-vous quand même, hein. Alors, je donne le titre ou je donne pas le titre là pour commencer là, parce que certains sont, je sens un petit peu, c'est très simple. Un père et une mère sont-ils interchangeables? Et on va voir d'après la parole de Dieu. La parole de... Encore une fois, vous savez, certains disent, oh, peut-être que je ne serai pas d'accord. Et écoutez bien, chacun a le droit de ne pas être d'accord, même avec Dieu. Pendant des années, je n'ai pas été d'accord avec Dieu. Lui, il voulait m'aimer, moi, je ne voulais pas. Parce que je pensais qu'il était en colère contre moi. Je ne savais pas que Dieu n'était que bon. Et je cherchais Dieu, je cherchais à connaître Dieu à travers les circonstances de la terre. On entend parler de mort. Moi, j'avais été malade pendant longtemps. Notre père est décédé, il était jeune, il avait 49 ans. On entend parler des guerres, des famines, des injustices. Et trouver Dieu là, non. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas lui qui fait ces choses-là. Donc, on a le droit de ne pas être d'accord avec Dieu. Donc, ce que vous entendez, je vous le dis tout de suite, il faut que vous vérifiez cela dans votre propre Bible. Mais également, je répète, on a le droit de ne pas être d'accord. Et Dieu va accepter parce qu'il nous a donné le libre arbitre. Et parce que l'être humain est un être qui est libre de choisir, eh bien, les conséquences sont lourdes. Parce que l'être humain donne une direction à sa vie et puis donne une direction à la société, à une génération entière. Nous avons, je vous ai parlé des différentes générations lors du culte dernier. Est-ce que ça vous a aidé à comprendre les générations qui sont avant ou après vous ? Ok, donc ça, c'est ce qu'on va voir. On entend beaucoup, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler. Il y a une loi qui est sur le point de passer. Et bien évidemment, les chrétiens devraient être des gens qui prient, c'est-à-dire qui demandent l'intervention de Dieu. Mais l'intervention dans notre vie est trop petite pour qu'on ne prie que pour notre vie. Et il faut que l'on prie pour notre ville. On doit prier pour le gouvernement, quel qu'il soit. On doit prier pour l'Union européenne, peu importe qui est à la tête. Le Seigneur nous demande de prier afin de l'inviter dans les situations. Alors, nous avons, aujourd'hui, nous sommes bénis, on peut dire, d'avoir non seulement un accès aussi grand à la connaissance, à un clic. Je suis... dans 3000 ans d'histoire en arrière. En un clic, je peux me trouver dans une autre culture à l'autre bout de la planète. Ce n'est pas simplement que l'accès à la connaissance est très facile, mais il faut réaliser que, comme la Bible l'avait prédit il y a plus de 2500 ans de là, eh bien, la connaissance augmentera dans la période où nous sommes. Tout particulièrement dans la période où nous sommes, la Bible prédit, c'est-à-dire Dieu a prédit que la connaissance augmenterait de manière fulgurante. Donc il y a l'accès facile à la connaissance et puis il y a la dose de connaissance qui est à notre disposition. Aujourd'hui, aller sur la Lune, ça n'est rien. Faire un voyage dans l'espace, ça n'est rien. D'ailleurs, on est sur le point... pour ceux qui disposent de grosses sommes d'argent, de pouvoir même aller en vacances. Ça peut être, voyage touristique, clac, je vais sur une autre planète. Aujourd'hui, on peut remplacer un membre par de la robotique afin que quelqu'un qui a peut-être été amputé à cause d'un accident ou d'une maladie puisse retrouver une vie des plus normales possibles. C'est énorme ce que l'on peut faire. Aujourd'hui, vous avez des voitures, bientôt il ne sera plus nécessaire d'avoir le permis. Parce qu'il y a une telle technologie à bord. Mais néanmoins, il y a des questions, comme par exemple on entend parler de la PMA-GPA, et il y a beaucoup de questions de société aujourd'hui. Donc quand on parle de connaissances, de quoi parle-t-on ? Est-ce que l'on parle uniquement de l'accumulation d'informations que l'on trouve dans une encyclopédie ou que l'on trouve sur Internet. Ou alors, la connaissance, est-ce plutôt le résultat d'une conscience aiguë et profonde des conséquences néfastes et destructives que l'application de cette même connaissance serait susceptible de causer dans le cas où elle ne serait pas contrôlée. Mais on dit la connaissance, oui, mais on sait. Non, mais est-ce que l'on sait au point de pouvoir prédire ou contrôler les conséquences si elles étaient néfastes dans le cas où j'appliquerais la connaissance qui est à ma disposition? Vous comprenez? Alors je vous dis tout de suite, ce message va être différent de ce que j'ai l'habitude d'apporter, parce que je vais lire un peu plus de textes. Et ça, c'était Raïm Ousmane qui posait la question. Il faut savoir que le mot connaissance en hébreu, c'est le mot da'at. Il peut aussi être traduit par avoir conscience, et c'est ce que l'on va voir. Dans Genèse, chapitre 2, verset 9. Il est dit, le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres. Ce qui veut dire que même ceux qui ne veulent pas de Dieu ont un cadeau de Dieu dans leur jardin. Et en profitent à table. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect désirable et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance, dat, et l'arbre de la connaissance, et cet arbre-là, il était tout à fait particulier, parce que la Bible dit que c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit, quand il a créé le premier couple, il a fait un jardin d'Éden. En Mésopotamie, il a fait un jardin d'Éden. Et il a placé le premier homme, la première femme. Et il a dit, ok, multipliez-vous et remplissez la terre. Parce que Dieu voulait une famille. Dieu voulait des êtres d'une autre catégorie, on va voir laquelle, avec qui communiquer et avec qui œuvrer pour l'éternité. Et c'était comme un couple prépare la chambre d'enfant, la décore et l'adapte aux besoins de l'enfant. Et au fur et à mesure, va l'adapter aux besoins grandissants et de l'enfant. Et Dieu a dit, voilà, je mets toutes sortes. C'était, vous ne manquerez d'absolument rien. C'est-à-dire que l'être humain ne savait même pas de quoi il avait besoin et déjà ses besoins étaient pourvus. Ça, c'est le encore plus de fruits dont tout à l'heure Pasteur Marc parlait. Dieu est dans cette mentalité-là. Il dit, mais il y a une chose. Ne touchez pas à une sorte d'arbre, celui de la connaissance du bien et du mal. Pourquoi ? Parce que Dieu est celui qui se réservait la connaissance du bien et du mal, et on va voir pourquoi. Dans Genèse 3, chapitre 7, on sait que le tentateur est venu, et malheureusement, ils ont choisi de céder à la tentation, et de que faire ? De goûter, de prendre du fruit de cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal. Et on pourrait dire, bah oui, mais c'était tellement tentant. Non, à vrai dire, parce que la tentation n'existait pas sur terre. Et il ne manquait de rien. Mais le diable, qui est l'ennemi de Dieu, a réussi à leur faire avaler un mensonge. Parce que c'est la seule chose, il n'a aucune puissance. La seule chose qu'il puisse faire, c'est mentir aux gens. Tu ne vaux rien. Tu seras malade comme ton père, tu seras malade comme ta mère, à son âge tu mourras. Ça, ce ne sont pas des pensées qui viennent de Dieu. Parce que Dieu est celui qui donne et encourage la vie. Donc la seule chose qu'il reste à l'ennemi de notre âme et à l'ennemi de Dieu, c'est de ruser, de mentir. Et au lieu de s'attacher aux paroles et à la générosité de Dieu, ils ont choisi d'essayer les paroles du diable. C'est-à-dire qu'ils ont fini par dire, je vais faire ma vie sans Dieu. On va faire notre vie sans Dieu. D'accord. Dieu est la source de la vie, Dieu est la source de la sagesse, Dieu est la source de l'amour, Dieu est la source de l'espérance. Mais, tu sais quoi, Dieu, on n'a pas besoin de toi. Et Dieu respecte. Mais ça n'a pas été sans conséquence. Parce que quand ils ont dit, alors qu'ils avaient la vie de Dieu en eux, quand ils ont dit à Dieu, nous, on ne veut pas de toi, on veut construire notre propre vie. D'ailleurs, la terre, la vie sur terre, est le résultat de la vie sans Dieu. Ça, c'est le résultat. Le manque de sagesse, les injustices, tout ce que l'on peut voir, c'est le résultat de personnes qui ont voulu faire leur vie sans Dieu, qui sont privées de la connaissance, de l'omniscience, de l'amour, de l'altruisme, de la générosité, de la sagesse. Voilà, le résultat, on y est tous. Mais, c'est plus que ça. Ils ont perdu la nature de Dieu qui était en eux. Et en eux, ils ont eu une nature qui les a dominés, c'est-à-dire péché. C'est-à-dire, à partir de ce moment-là, l'être humain a été incapable de retrouver le chemin vers Dieu sur la base de son obéissance. Je peux obéir suffisamment à Dieu, plaire suffisamment à Dieu pour retrouver une connexion avec Dieu. Non, ça n'est pas possible. Aujourd'hui, il faut que cette connexion avec Dieu nous soit donnée. Et c'est ce qu'est venu faire Jésus-Christ. En attendant, l'être humain s'est trouvé séparé d'avec Dieu. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a des gens qui disent « Mais Dieu est loin pour moi ». Eh oui, c'est bien sûr que Dieu est loin pour nous, tant qu'on n'a pas accepté Jésus-Christ. Et il est dit ici, chapitre 3, verset 7, « Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, Adam et Ève, et ils connurent, qu'est-ce que vous avez dans cette version ?» Et ils connurent, oui. Dans d'autres versions, c'est « et ils surent ». Et il y a même une autre version qui dit « et ils se rendirent compte ». Ah, ils prennent conscience, parce qu'en hébreu, c'est vraiment cela. Et ils ont pris conscience qu'ils étaient nus. C'est-à-dire que, nus de quoi ? Ben, ils ont perdu la conscience de Dieu. Et ils ont eu conscience d'eux-mêmes. C'est quoi ? Et moi, et moi, et moi. Et Dieu est là. Non, je suis conscient de moi. Dieu est partout. Mais, quand je veux faire ma vie sans Dieu, c'est je suis conscient de moi seul. Et la Bible dit, et ils ont connu, voyez d'où, qu'ils étaient nus. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on a là ? On a le fait que connaître et avoir la conscience Dieu de n'est pas séparé. La conscience n'est dans la pensée de Dieu, la conscience du bien et du mal est indissociable de la connaissance. C'est énorme. Au contraire, dans la pensée de Dieu, selon la Bible, la conscience du bien et du mal est l'essence même de la connaissance. La conscience suprême de la réalité ne se limite donc pas à la capacité de pénétrer les secrets de la nature et du monde physique, c'est-à-dire savoir, mais la connaissance se mesure par le pouvoir de distinguer clairement le bien du mal afin de donner un sens à nos actions. Ésaïe chapitre 12, verset 5. Qu'est-ce que vous avez ici ? Ésaïe chapitre 12, verset 5. Je vais vous lire cette version. « Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence et toute la terre le sait. » Midat, toute la terre savoir, connaître. Dans cette autre version, « Chantez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. » Cela est connu, midat, de toute la terre. Cette autre version dit « Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses merveilleuses, qu'elles soient midahat, connues par toute la terre. » Il y a un rabbin Véret, qui fait remarquer que le terme hébraïque midahat signifiant connaissance, est lu selon la tradition rabbinique Mudaat, autrement dit conscience. Ce verset peut alors être lu, chantez l'Éternel, il a fait des choses glorieuses, qu'elles soient en votre conscience partout de la terre. Dieu a fait des choses merveilleuses. Et notre prière, c'est que les gens en aient conscience. Et c'est là que réside la clé du savoir. Savoir seulement, accumuler des informations, ça ne suffit pas sans la conscience. La conscience de Dieu est la conscience qui permet de distinguer le bien du mal. Ésaïe chapitre 11, verset 9. Alors ce verset, on l'a chanté et chanté et chanté. La Bible dit qu'à un certain moment, il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond des mers. Et là, c'est on ne fera pas de tort, on ne détruira pas dans toute ma sainte montagne, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. La connaissance de l'Éternel, c'est quoi ? La conscience. Dieu est ici. Je suis en train de conduire. Oh, merci Seigneur. Je lui parle parce que je suis consciente qu'il est là. À l'hôpital, devant un enfant malade, les parents ont plus conscience de Dieu que de la maladie. Qu'est-ce que ça donne, ça, mes amis ? Qu'est-ce que ça donne à ces parents ? Qu'est-ce que ça donne à cet homme qui a un superbe poste dans une entreprise et il se tient là et il s'entend dire, vous savez quoi ? Terminé. L'entreprise, dans 6 mois d'ici, elle n'est plus là. Oui, mais vous comprenez, à mon âge, non, j'ai tellement conscience de Dieu que mon Dieu a quelque chose qui concourt à mon bien. Qu'est-ce que ça fait dans la vie d'un homme ? Ce qui veut dire que l'encouragement à savoir devrait aller de pair avec celui du développement de la conscience morale. Or, il se trouve que bon, nous vivons en Europe et quand il s'est agi de proposer la constitution de l'Union européenne, eh bien, clairement, le fait que les valeurs morales de la conscience européenne sont fondées sur des valeurs judéo-chrétiennes, ça a été rejeté. Et puis ensuite, le traité. Là, on pouvait encore accepter que ces valeurs judéo-chrétiennes, c'est-à-dire bibliques, soient... Et je vais préciser pourquoi je dis ça, pourquoi elle et pas d'autres. Ça a été rejeté. Or, il faut se poser une question. Qui est à même de donner la connaissance du bien et du mal ? C'est lourd de distinguer clairement, oui, c'est bien et non, c'est mal. C'est énorme, énorme. Quelle autorité peut dire cela ? Donc, les origines de l'éthique. Pourquoi ? Parce que seul le sens des valeurs éthiques et morales, ainsi que leur application, conduira l'humanité à plus de modération, de responsabilité mutuelle et de bonheur. C'est encore ce que dit Raïm Ousmane. Donc, les origines de l'éthique. Peut-on cloner, par exemple, des êtres humains ? Existe-t-il des vies qui ne valent pas la peine d'être acceptées ? Jusqu'à quand peut-on dire, à quel être humain peut-on dire, tu sais, tu ne vaux pas la peine de vivre parmi nous ? On est tous confrontés à ce genre de questions. Tous. Est-ce mal à deux personnes du même sexe de se marier ? Est-ce mal de se marier à trois ? Aujourd'hui, ça existe. Il faut se poser la question. Et l'autre fois, il y avait justement un débat à la télé, et puis il y avait, je ne me souviens plus de ce nom-là, la directrice du centre de recherche, le CNRS, et puis qui disait, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas, et pourquoi pas, et pourquoi pas, et pourquoi pas. Et je me suis dit, cette femme est une femme qui doit être extrêmement intelligente, qui doit avoir une grande dose de savoir, de connaissance. Et je me suis dit, mais elle ne sait pas où placer des limites, c'est-à-dire comment appliquer son savoir. Et là, il y a plus de limites, il n'y a plus de barrières. Et la question est, où est-ce que ça nous mène? Alors, l'éthique. Ça, ce sont des dilemmes éthiques de notre 21e siècle. Éthique, c'est la science qui traite des principes régulateurs de l'action et de la conduite morale. En Occident, on dénombre en général trois opinions sur l'origine de l'éthique. Il y a ce que certains admettent comme l'éthique, la loi divine, c'est-à-dire que tout ce que Dieu commande est arbitrairement bon et moral. Voilà. Dieu l'a dit, donc c'est bon et moral, point barre. Il y a la théorie des formes, qui a été soutenue par Platon, c'est-à-dire qu'il existe une forme indépendante, en dehors de Dieu, qui est l'archétype absolu de la morale et de l'éthique. Ben, le problème, c'est que personne n'a jamais atteint ce standard moral d'une autre forme indépendante, donc personne ne peut dire ce qu'est ce standard moral. Donc, résultat, ben, il n'y a pas d'éthique. Et puis, il y a une troisième forme d'éthique, c'est toute connaissance est relative à l'individu. Ben, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il n'y a pas de morale absolue, parce que ce qui est moral pour moi ne l'est peut-être pas pour toi, ou pour toi, ou pour toi, ou pour toi. Parce que la morale, dans ces cas-là, devient complètement subjective. Et comment une société peut-elle avancer et se développer dans les siècles à venir quand chacun dit « je suis le standard moral », c'est-à-dire « je suis la personne qui définit le bien et le mal ». Parce que chaque éthique devient tributaire des circonstances, des individus et des cultures. Ben, la logique, c'est que l'éthique n'existe tout simplement pas. Alors, on peut se demander d'où vient l'éthique. Donc, il y en a deux. Et encore une fois, moi, je vous présente ceci, et j'espère que vous réfléchirez pour vous-même en dehors. Personne ne devrait juste recevoir ce qu'un pasteur ou une personne religieuse dit. Ça évoque une réflexion, mais la réflexion ne devrait pas rester là. Donc, qui peut établir des limites entre le bien et le mal? Dans Lévitique, chapitre 19, versets 1 et 2, Dieu a dit à Moïse, « Parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire saint? Saint, ça veut dire, oui, parfait, mais non. Saint, ça veut dire mis à part. C'est exactement ce que ça veut dire. Mis à part, vous m'avez entendu donner ma fameuse recette des crêpes. En tant que bretonne, je peux vous redonner les ingrédients. Il faut de la farine. Il faut des œufs, il faut du sel, il faut du lait et il faut des œufs. Ça se voit qu'on est dans la Méditerranée ici, en Méditerranée. Hein. Des œufs. Bon, on prend une boîte d'œufs. Imaginons que la quantité que je vais faire de pâte à crêpes requiert 3 œufs. Eh bien, je vais prendre ma boîte de 6 ou 12 œufs et je vais en mettre 3 à part. Ça veut dire qu'ils sont sanctifiés, ça veut dire simplement cela. Je les ai mis à part pour un usage particulier. Et Dieu dit « je suis saint », c'est-à-dire. Ben, on sait que notamment, Dieu est lumière et qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. Dieu est mis à part du péché, Dieu est mis à part des ténèbres, Dieu est mis à part de la mort, Dieu est séparé du mal. Mais c'est énorme. C'est-à-dire que lui connaît les limites de la lumière et il connaît les limites des ténèbres. Il connaît les limites du bien et il connaît les limites du mal. Lui seul est capable d'appeler mal, mal, bien, bien. Non mais c'est... Je vous ai perdu, je continue un peu ou... Ça va être extraordinaire, vous allez entendre des choses. Alors, bien évidemment, à travers ce message, il n'est pas question de juger qui que ce soit. Et ça, les chrétiens devraient accepter à ne pas juger les autres. Parce qu'on ne connaît pas les circonstances de la vie, nous, on ne connaît pas. Hein. Mais en tout cas, lui, c'est évidemment, ce verset donne une explication extrêmement profonde sur l'origine de l'éthique. Dieu, en effet, créa l'homme à son image. Genèse 1, 28, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est-à-dire que l'origine de la moralité se trouve en Dieu lui-même. Les lois éthiques de la Bible sont une révélation de cette forme parfaite divine qui est le modèle de référence pour un comportement humain éthique. Effectivement, Proverbe chapitre 1, verset 7 dit « Le savoir commence avec la crainte du Seigneur. Sagesse et instruction, l'insensé les méprise. » La sagesse et l'instruction se trouvent dans la parole de Dieu. Parce que l'homme est doté du libre arbitre, eh bien, il doit méditer sur les conséquences de ses choix. Que ce soit des choix individuels, comme par exemple, est-ce que nous voulons déménager, des choix de famille, des choix pour une entreprise, des choix au niveau de la ville, des choix de société, des choix qui vont impacter une génération entière. Là, autrement, l'être humain ne peut pas simplement dire « il suffit que je sache, il faut qu'il accepte que la conscience du bien et du mal est ce qui va l'aider à mesurer les conséquences jusque dans les générations à venir. » Alors, en juin 2017, maintenant je vais parler de la PMA, et ensuite je vais terminer avec les résultats de recherche d'une anthropologue. Donc, il s'agit de la procréation médicalement assistée, les techniques médicales consistant à manipuler spermatozoïdes et ou ovules pour aboutir à une fécondation et aider, à cette époque-là, un couple infertile ou une femme infertile à avoir un enfant. Ça veut dire qu'il y avait une incapacité biologique ou ce que vous voulez, mais il y avait cette incapacité. Donc, dans ces cas-là, eh bien, c'était aider quelqu'un par, on pourrait dire, une intervention, oui, mécanique, hein, pour aider ce couple-là. Bon, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de couples qui ont été bénis que par cette aide médicale, eh bien, la femme ait pu avoir un enfant. Bon, clairement, là, on a besoin, une femme a besoin du corps d'un homme. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais aller directement au but. Alors, c'était pour qui, en France, la PMA est réservée aux couples composés d'un homme et d'une femme en âge de procréer, et qui souffrent d'une infertilité médicalement constatée, ou bien qui risquent de transmettre une maladie grave à l'enfant. Donc ça, c'était le contexte de cette assistance. Aujourd'hui, eh bien, nous en sommes, la France est sur le point où encouragerait le fait que la PMA, c'est-à-dire cette aide, ne soit plus seulement donner à des personnes qui sont dans l'incapacité d'avoir des enfants, mais tout simplement qui veulent se passer du sexe opposé pour avoir un enfant. Il n'y a plus une question d'infertilité là. Donc ça veut dire que ça s'adresserait, ce serait OK pour des couples homosexuels ou plutôt féminins, hein, dans un premier cas, pour bénéficier de cette aide. Alors, on pourrait dire, oui, mais c'est, comment est-ce que deux femmes pourraient avoir un enfant ? Ben, là, on sait que mécaniquement, c'est possible. Ce qu'il faut voir, c'est, ben, oui, ces dames réclament la possibilité d'avoir un enfant sans une fonction naturelle entre un homme et une femme, parce que ben, la France a accepté de reconnaître un couple. Donc dans la mesure où ça a été accepté, ben, c'est difficile de le dire, ah ben non, maintenant on ne peut pas vous considérer comme famille. Donc moi la logique, je la comprends. Mais ce qu'il faut voir, c'est ce qui s'est passé avant. Donc dans un sens, ben ouais, ouais. Mais ça ne va pas s'arrêter là. C'est qu'après, ben, les messieurs vont dire, mais nous, on ne veut pas la fonction naturelle avec une femme. La morphologie est là, mais on ne veut pas. En revanche, on voudrait vivre avec tous les bénéfices qu'un couple naturel a. Donc, nous aussi, on va bénéficier de la connaissance. On va bénéficier du savoir. Et puis, je vais vous choquer. Parce que il y avait dans ce débat, il y avait un gynécologue très réputé d'un hôpital parisien qui disait, mais non, il ne s'agit pas de donner au couple masculin. Mais dans la mesure où on les a reconnus, c'était avant qu'il fallait réfléchir. Et lui, il avait l'air de dire, non, mais on n'ira pas jusque-là. Si, il faut aller jusque-là. Parce que qu'est-ce qui va se passer le jour où quelqu'un dira que je sais que médicalement c'est possible, mais moi, j'aime cet enfant. On doit réfléchir aux conséquences de ce que l'on est en train de faire. On pourra dire, ah mais c'est pas mal. Non mais qui te dit que c'est mal d'avoir, de se marier avec un enfant ? Je vais vous choquer, mais moi, ça ne me dérange pas qu'on soit choqué à l'Église, parce qu'on doit réfléchir. Qu'en est-il d'un être humain et d'un animal ? Parce qu'aujourd'hui, on en entend parler. Déjà, on entend des gens qui cèdent tout leur bien à un animal. Et la Bible interdit certaines pratiques. Et moi, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 22 ans, j'ai lu des trucs et je me dis, oh là là ! Ouh là là ! Et aujourd'hui, je suis effrayée que la Bible mette en garde contre certaines choses. Alors, oui, on a accès à la connaissance. Et oui, nous avons une grande dose de connaissance. Et oui, la technologie aujourd'hui permet beaucoup de choses. Mais la Bible nous dit que la connaissance est inséparable de la conscience du bien et du mal. Où allons-nous chercher notre conscience du bien et du mal ? Au départ, chaque être humain a la conscience du bien et du mal en lui. Tous les enfants que vous voyez, d'ailleurs, ce n'est pas difficile. Vous dites tout petit enfant, là, on a notre neveu et notre nièce sont arrivés hier avec leurs deux enfants, très tard, l'avion a eu beaucoup de retard. Mais bon, c'est tout, on se retrouve à la maison, c'est extra qu'ils soient là. Et j'espère que vous pouvez les voir la semaine prochaine parce qu'ils sont repartis aujourd'hui. Mais, il y a le petit Jules. Quel âge a Jules ? 4 ans. Et alors, il a pris son doudou et puis il joue avec. Son père lui dit ne joue pas, tu vas le casser. Bon, bref. Et puis il le faisait vis-à-vis du petit chien. Il envoyait son doudou sur le petit chien du style. Alors sa mère le voit et dit non. Qu'est-ce que tu as fait, Jules ? Jules, ça c'était unique. Est-ce que tu as envoyé ton doudou sur le petit chien pour lui faire du mal ? Il savait et il n'osait pas le dire. Pourquoi ? Parce qu'il a la conscience du bien et du mal. À un moment, il va faire mal, mal agir consciemment. Et le jour où il le fera, à l'âge en général de la raison, eh bien, la nature du péché va se réveiller en lui. Et là, il aura besoin de son sauveur. Et j'espère qu'il va accepter le Seigneur avant. Mais, ce que je veux dire, c'est que les enfants, ils naissent avec cette conscience. Et puis, on la perd à un moment. Ce qui veut dire que l'on perd la conscience du bien et du mal. On perd la conscience de Dieu, on perd la conscience du bien et du mal. Est-ce que vous me suivez ? D'accord. Donc, vous comprenez que la connaissance dans la pensée de Dieu, eh bien, est inséparable. La connaissance est inséparable de la conscience du bien et du mal. Et aujourd'hui, on entend, non, mais c'est pas grave. On peut très bien donner on peut laisser un couple homosexuel avoir un enfant. Il y en a un qui sera le père, l'autre la mère. Il y en a une qui sera la mère, l'autre le père. C'est pas grave. Il y en a un qui va assumer. Est-ce vrai? Voilà ce que dit cet anthropologue-là. Alors, il se trouve qu'elle s'appelle Anne Machin. Elle est anthropologue à Oxford. Donc, peut-être qu'en anglais, ils prononcent différemment, mais... Elle a fait référence à une décennie de recherche. Et elle a découvert qu'avoir un enfant change une femme, corps et âme. Bon, ben ça, oui, tout le monde le sait. Mais aussi, l'homme est changé par la naissance de son enfant. Par exemple, une étude, là je vais lire, hein, une étude quinquennale menée auprès de plus de 600 hommes aux Philippines a révélé que ceux qui sont devenus pères ont connu une baisse significative de la testostérone, hormone associée à l'agression, à la force et à la libido masculine. Elle dit que la naissance marque aussi une transition critique dans le comportement du père. La baisse de testostérone fait place à de nouvelles hormones qui l'attirent vers son partenaire et son nourrisson et l'encouragent à participer aux soins, aux tâches ménagères liées au bébé. Vous allez dire, ah bah tiens, bah oui, s'il est italien et qu'il a été élevé, excuse-moi, mais là... On parle de ce qui est naturel. Après, il y a l'éducation qui peut prendre. Hein. Mesdames, vous êtes mariées à un Italien, dit, ne te réfrène pas naturellement. La vaisselle est là. Donc, cet anthropologue cite des études indiquant que plus la testostérone d'un homme est faible, plus son cerveau est susceptible de connaître des poussées d'hormones de liaison et de récompenses comme l'oxytocine et la dopamine quand il passe du temps avec son enfant. Elles sont en partie responsables de ce sentiment de chaleur et de satisfaction que les nouveaux parents connaissent si bien. Un sentiment qui les aide à compenser les nuits blanches et les couches sales qui accompagnent l'arrivée d'un nouveau-né. Et tous les gens qui n'ont pas eu d'enfant se disent « Mais comment tu peux accepter ça ? C'est juste intolérable. Comment tu peux accepter ces nuits blanches ?» Ils ne les acceptent pas, mais il y a un changement d'hormones qui fait que eux sont capables. Mais on n'appelle pas ça la grâce de Dieu. Franchement, même ceux qui ne croient pas en Dieu, ça marche. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et que la science montre à quel point les pères sont biologiquement différents des mères. Une étude menée en 2012 par des neuroscientifiques israéliens a révélé que les parties du cerveau qui s'illuminent le plus chez les pères ne sont pas les plus actives chez les mères. Et l'anthropologue écrit « Pour les mamans, les régions plus proches du centre du cerveau qui leur permettent de soigner, de nourrir et de détecter les risques étaient les plus actives. Mais pour les papas, les parties qui brillaient le plus étaient situées à la surface externe du cerveau, là où se trouvent des fonctions cognitives plus élevées et plus conscientes comme la pensée, l'orientation vers un but, la planification et la résolution de problèmes. Cette différence entre l'activité cérébrale maternelle et paternelle, écrit-elle, peut refléter une différence de rôle et des attaches différentes, mais tout aussi fortes entre les pères et les mères. Le vieux cliché selon lequel les enfants courent vers leur mère pour des câlins et des baisers quand ils se heurtent les genoux et vers leur père quand ils veulent jouer et rire, peut avoir plus de fondement en biologie que beaucoup ne voudraient l'admettre. Un enfant, quand il veut jouer, vers qui il va ? Vers son père. Quand il a besoin d'un câlin, il va vers sa mère. Il dit, vous vous souvenez de ces hormones de récompense dont j'ai parlé tout à l'heure ? Il s'avère que les mamans et les papas en vivent des pics tout en s'adonnant à des activités très différentes avec leurs enfants. Le pic d'ocytocine et de dopamine d'une femme est atteint quand elle nourrit et réconforte ses enfants. Pour un homme, ces mêmes hormones atteignent leur apogée lorsqu'il se livre à des jeux de cheval, de bagarres avec ses enfants. Et l'anthropologue écrit que les bagarres avec le père, non seulement, enfin les bagarres, on reprend, hein, chahuter, jeter en l'air et la mère, avec le père, non seulement, moi je me souviens, mon père quand il faisait ça, je me souviens encore la hauteur. Mais c'était extraordinaire. Ma mère n'a jamais fait ça avec moi. Au contraire, elle disait, ah Michel, pas si haut. Elle écrit que les bagarres avec le père non seulement cimentent les liens entre le père et l'enfant, mais aussi jouent un rôle crucial dans le développement social de l'enfant. Les rôles que constituent les pères et les mères dans la reproduction et l'éducation des enfants sont tout sauf socialement construits. Bien sûr, Dieu est miséricordieux et dans des situations difficiles où une mère ou un père est absent, eh bien, les pères et les mères jouent des rôles uniques et non interchangeables dans le développement des enfants. Et c'est là où on a besoin de ce que notamment les Africains disent. Eh bien, un enfant, pour bien se développer, a besoin d'être élevé dans une tribu. C'est-à-dire que là où il y a un père ou une mère qui n'est pas là, eh bien, les grands-parents, les oncles, les tantes vont pouvoir contribuer à pallier. Et puis, eh bien, c'est important que les parents prient pour leurs enfants. Ils disent, mais donne-lui ce que mon enfant manque. Alors, c'est vrai que l'on peut. J'ai trouvé que c'était très intéressant de lire ce que cet anthropologue avait conclu au bout de 10 ans de recherche. Mais c'est parce que l'homme est doué de libre arbitre qu'il a le devoir de méditer sur les conséquences futures de ses actes. La source biblique met en garde contre la tentation de se détourner du divin. Est-ce que vous rappelez ce qu'il est dit ? Je vais juste vous le citer dans Genèse chapitre 2, verset 17. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que Dieu avait dit ? Tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu en mourras. C'est-à-dire qu'il faut, on ne peut pas s'approprier la connaissance du bien et du mal. Je ne suis pas celle qui peut dire le bien est là, le mal est là. En revanche, je peux demander à Dieu et lire dans les Écritures, dire qu'est-ce que tu appelles bien ? Qu'est-ce que tu appelles mal ? Et puis, je dois dire que à travers tout ceci, bien moi je pense à des milliers d'enfants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, et qui seraient tellement bénis d'avoir une famille. Les orphelins, la Bible dit que Dieu donne une famille aux orphelins. Ça, c'est ce qu'il veut faire. Et vous savez, je suis persuadée, Dieu veut tellement prendre soin des enfants. Le problème, c'est qu'il nous a donné la terre à gérer, et que l'être humain sans Dieu, il gère mal. Mais Dieu voudrait que chaque enfant ait des parents. La morphologie, la nature nous dit, c'est un homme et c'est une femme. La Bible nous le dit. Celui qui connaît le bien et le mal le sait. Et il voudrait que chaque enfant puisse bénéficier d'une famille. Se retrouve, eh bien, en train d'être réconforté, soigné, nourri, mais également qu'il y ait quelqu'un qui puisse, un père qui puisse jouer avec lui, qui puisse l'aider, parce que ça contribue à son développement et à sa réflexion. Mais combien sont prêts à adopter un enfant. Moi, je suis persuadée que quand un couple le fait, eh bien, la grâce, qu'il soit croyant ou pas, Dieu, la Bible nous dit, Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Il fait briller le soleil. Dieu en fait autant pour ceux qui ne veulent pas de lui que un jour, on va voir la séparation. Parce qu'on va tous aller là où on a choisi. Mais en attendant, sur cette terre, Dieu essaie de faire la même chose pour tous. Parce que la Bible dit, c'est la bonté de Dieu qui nous conduit vers lui. Ce n'est pas le jugement, c'est la bonté de Dieu. Un jour, on dit, oh, quand même, Dieu a été bon avec moi. Comment ça se fait que je n'ai pas été conscient de lui avant cela? Mais quand un couple adopte un enfant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la grâce de Dieu vient sur cet enfant. Merci pour cette porte qui a claqué. La grâce de Dieu vient sur cet enfant. Et je suis persuadée que Dieu fait quelque chose dans le cœur de cet homme et cette femme pour faire une famille. J'en suis persuadée, parce que Dieu veut donner une famille à chaque enfant. Alors, à nouveau, ce sont des pistes de réflexion, je vous laisse avec, je vais juste terminer avec cette phrase. Chaque fois que la connaissance est coupée de ses racines éthiques, l'humanité va à sa perte finale, car la civilisation se désintègre de l'intérieur. Cette phrase n'est pas de moi, elle est de Haïm Ousmane. Mais voilà, nous sommes dans une période de réflexion, et une chose est sûre, c'est qu'en plus de réfléchir, eh bien, selon les convictions bibliques, nous devons prier. Pour les hommes, les femmes qui font passer des lois, et prier pour que cette conscience de Dieu en France revienne. Lors de la Révolution française, c'est la déesse Raison qui s'est assise sur le trône de la France. Mais c'est la conscience de Dieu qui doit revenir. Avant, les rois étaient oints, ils recevaient l'onction, comme la reine d'Angleterre qui reçoit l'onction, qui reçoit la part de Dieu. Ceci dit, est-ce que vous voyez que Dieu est bon? Et vous savez, les chrétiens, les juifs, parce que les juifs ont tout l'Ancien Testament, enfin ce que nous appelons l'Ancien Testament, le Tanakh, nous avons accès à la pensée de Dieu. Dans tous les domaines de notre vie, personne ne devrait rester avec cette phrase « je ne sais pas que faire ». Parce que oui, il y a bien des domaines dans la vie où on dit ah, « je ne sais pas que faire ». Mais au moins, ayons le réflexe de nous tourner vers Dieu et de dire « et toi, donne-moi ta sagesse. Quel est le meilleur que tu as pour moi ?» Et quand on accepte son meilleur, les portes s'ouvrent, il dirige les circonstances, comme les deux témoignages que vous avez entendus aujourd'hui. Et puis j'ai appris une chose, c'est que je ne suis pas Dieu. J'accepte, je ne suis pas Dieu. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles pour un être humain, d'accepter qu'il n'est pas Dieu. Mais également d'entendre que Dieu existe et qu'il voudrait être votre meilleur ami. Tu peux jouer un peu. Je pensais à cela tout à l'heure, à vrai dire, pendant la louange. Je me disais, peut-être qu'il y a des personnes au milieu de nous, et il ne s'agit pas d'embarrasser. Hein. Et ce que j'aimerais, c'est que tout le monde soit le plus à l'aise possible. J'aimerais que tout le monde, dans une attitude de respect, puisse les yeux fermés, on courbe notre front. Peut-être qu'il y a des personnes qui, au milieu de nous, sont justement, n'ont pas cette capacité d'avoir des enfants, ne peuvent pas en avoir. Si vous savez, nombre de personnes où Jésus a dit vous imposerez les mains. C'est-à-dire Jésus dit eh bien que il cherche un être humain pour que sa main soit tangible. Et il a dit aux chrétiens vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire que quand quelqu'un reçoit l'imposition des mains, processus de guérison, de rétablissement se met en marche. Et peut-être qu'il y a des personnes au milieu de nous et qui disent, tu sais, moi, je voudrais un enfant, mais je ne peux pas. Ou mon mari, et il ne peut pas. Moi, je crois que le Seigneur, il veut vous aider. Pendant que tout le monde garde le front courbé, les yeux fermés, si c'est votre cas, eh bien, j'aimerais prier pour vous. Oui. Y a-t-il d'autres personnes? Que le conjoint, mari, la femme, soit présent ou pas, hein, peu importe. Gloire à Dieu. Puisqu'une personne a levé la main, je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, tu as... C'est pas simplement une main levée, mon Dieu, c'est une main qui a été tendue vers toi. Qui dit « Seigneur, aide-moi ». Et dans le nom de Jésus, je te demande de faire un miracle dans le corps ou le couple, Seigneur, de cette personne. Toi, tu connais toutes les circonstances et tu es invité maintenant dans le nom de Jésus. Père, tu es bon, tu aimes les enfants. Et tu es celui qui met un enfant au moment de la conception. Tu as dit « Demandez et vous recevrez ». Dans le nom de Jésus, que ces circonstances changent maintenant et que cet enfant arrive. Dans le nom de Jésus, nous croyons, mon Dieu, que tu as entendu cette prière et Seigneur, c'est là que ça s'arrête. C'est fait. Nous te remercions. Nous avons hâte de voir cet enfant et de voir la joie de ses parents. Dans le nom de Jésus. Amen.